Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, puisque la liturgie nous fait célébrer aujourd'hui la fête de Saint-Gilles, disons quelques mots de sa vie et tâchons d'en tirer quelques enseignements pour notre vie chrétienne. Saint-Gilles est né vers l'an 640, en Grèce, à Athènes. Ses parents étaient de sang royal et parmi les premiers citoyens de la ville. Mais ils étaient surtout de fervents chrétiens, ce qui est le plus important. Ils lui firent étudier les lettres auprès des plus brillants professeurs de la ville. Il y montra une intelligence exceptionnelle, préférant toutefois l'étude des Saintes Écritures. Arrivé à l'âge de 24 ans, il eut la douleur de perdre successivement son père et sa mère, à peu de distance l'un de l'autre. Ce choc lui révéla le caractère fugitif, transitoire de notre vie sur terre. Tombant à genoux, il s'offrit tout entier à Dieu. Quelque temps plus tard, il vendit tout ce qu'il possédait, en distribua le prix aux pauvres et il s'embarqua sur un navire qui faisait voile vers l'Occident. La première escale, après une tempête qui faillit conduire au naufrage, les voyages étaient difficiles à l'époque, la première escale fut une petite île où Saint-Gilles découvrit un ermite qui vivait dans une petite grotte, se nourrissant d'herbes et de racines. Saint-Gilles se fit son élève pour s'instruire sur les voies de la vie spirituelle. Il se serait volontiers installé auprès de ce saint homme, mais s'estimant trop proche de son pays pour ne pas être découvert par sa famille qui le faisait chercher, il monta sur un autre vaisseau qui le conduisit jusqu'à Marseille. Mendiant son pain, il se dirigea vers Arles, métropole spirituelle des Gaules, qui avait été évangélisée par sainte Marthe. La région étant trop populeuse pour lui, il poursuivit sa marche en direction de Nîmes. Là, dans une forêt, il eut la joie de trouver un autre saint ermite du nom de Vérédème, à l'école duquel il se mit aussitôt. Il faut savoir qu'en ces temps reculés, de nombreux ermites peuplaient nos pays, était le signe de la foi extraordinaire de ces époques, et leurs prières et pénitences, eh bien, pour nous, attiraient d'innombrables grâces sur nos régions. Bien sûr, souvent les populations venaient troubler leur solitude pour chercher conseil et avis spirituel. Gilles souffrait de ces visites et au bout de 2 ans, il demanda à Vérédème de partir pour chercher un lieu plus solitaire. Il finit par trouver une autre grotte dans une forêt épaisse, au milieu d'arbres gigantesques et d'épais taillis, persuadé que là, personne ne le trouverait. Il put s'y adonner à la prière et à la pénitence, réussissant à apprivoiser une biche dont le lait lui donnait un peu de nourriture. Nous sommes maintenant arrivés en l'an 672. La région était alors sous la domination des Visigoths d'Espagne. Leur roi étant mort sans héritier, les grands de la nation avaient fait monter sur le trône Flavius, un prince très religieux et très vaillant. Il avait dû se rendre avec une armée nombreuse à Nîmes, dont le gouverneur refusait de le reconnaître, et il le força à capituler. Pendant qu'il rétablissait l'ordre dans la ville, plusieurs de ses hommes se livrèrent à la chasse dans la forêt épaisse où était notre saint ermite. Ils tombèrent sur la biche et ils se mirent à sa poursuite avec leurs chiens. L'animal se réfugia dans la grotte de notre saint. Tirant une flèche pour atteindre l'animal, quelle ne fut pas leur stupéfaction de voir sortir de la grotte un ermite au visage grave, pâle et amaigri, tenant sa main ensanglantée. Ils avaient failli le tuer. Tombant aussitôt à genoux pour demander pardon, ils se mirent en peine de le soigner, tandis que l'ermite les exhortait à penser à leur éternité. Revenus auprès du roi, les soldats lui racontèrent les détails de leur étonnante rencontre. Ému de ce récit, Flavius décida de se rendre à la grotte avec l'évêque de Nîmes et quelques officiers de sa suite. Là, il s'entretint longuement avec saint Gilles. Émerveillé de sa sagesse, le roi décida aussitôt de faire don à l'ermite de toute la vallée, qui s'appelle maintenant, pour cela, la vallée Flavienne, du fameux roi Flavius. Voilà. Et il lui demanda de bâtir un monastère aux frais de la caisse royale, persuadé que de nombreux disciples viendraient rejoindre l'ermite, ce qui se réalisa. En effet, les vocations affluèrent. De nombreuses familles s'installèrent autour du monastère, comme cela arrive souvent. Et c'est toute une cité qui fut construite autour et qui est maintenant la ville de Saint-Gilles dans le Gard. Saint-Gilles rendit son âme à Dieu le 1er septembre 720. Son tombeau, où eurent lieu de nombreux miracles, fut pendant longtemps l'un des trois célèbres pèlerinages du monde chrétien, après Saint-Pierre de Rome et Saint-Jacques de Compostelle. Et dans les vitraux, si vous voyez des vitraux de Saint-Gilles, il y en a par exemple à l'île Bouchard. D'ailleurs, la Sainte Vierge est apparue à l'église Saint-Gilles, l'île Bouchard. Eh bien, dans les vitraux, on le représente toujours accompagné de la biche. Voilà, demandons-nous maintenant quels enseignements nous pouvons tirer de cette vie, parce que si Dieu suscite des saints, c'est toujours pour notre instruction, même si nous n'avons pas à les suivre exactement dans tout ce qu'ils ont pu faire. La vie de Saint Gilles fait penser à cet homme de la parabole qui a trouvé un trésor caché dans un champ et qui, pour l'obtenir, vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Alors quel est-il ce trésor dont notre Seigneur parle dans la parabole? Saint Thomas d'Aquin nous dit « C'est Jésus-Christ ». Et il s'appuie sur l'autorité de Saint Paul qui écrit aux Philippiens « J'ai renoncé à toute chose, les regardant comme de la balayure, afin de gagner le Christ. » Si tous, bien sûr, ne sont pas appelés à tout quitter pour trouver notre Seigneur dans la vie religieuse, tous les baptisés sont appelés à quitter tout ce qui, dans le monde, les empêche d'être unis à Jésus, Jésus qui est le trésor de tous les chrétiens. Il est le seul sauveur parce qu'il est Dieu. Il est notre vie. Parce que le baptême nous a greffé sur lui pour que nous recevions de lui la vie divine, en attendant de lui être unis pour toujours dans le ciel. Et c'est dans l'Église catholique que nous trouvons Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, il aurait fallu nous rendre en Palestine pour rencontrer notre Seigneur. Aujourd'hui, par l'Église qu'il a fondée et qu'il a répandue dans le monde entier, nous pouvons le trouver partout où un prêtre catholique célèbre la messe. En effet, si la messe permet à notre Seigneur de répandre sur le monde le sang qu'il a versé il y a 2000 ans pour la conversion des pécheurs et pour tous les besoins de notre âme, eh bien la messe fait aussi venir Jésus au milieu de nous, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est la présence réelle. Et ce n'est pas un hasard si le spectacle blasphématoire qui a ouvert les Jeux Olympiques de Paris a visé justement l'institution de la Sainte Eucharistie. Ils savent très bien ce qu'ils font. Le démon qui avait tout fait pour faire disparaître notre Seigneur sur cette terre par une mort la plus cruelle, le démon est furieux que Jésus ait trouvé le moyen de rester toujours au milieu de son peuple par l'Eucharistie. Mais interrogeons-nous, avons-nous suffisamment la foi en la présence réelle? Lorsque nous rentrons dans l'Église, est-ce que nous considérons le Saint-Sacrement comme une chose sacrée, bien sûr, mais sans plus? Ou est-ce que nous avons conscience d'être en présence d'une personne divine, qui est venu là pour nous et qui nous attendait personnellement? Alors, après l'avoir adoré quelques instants parce qu'il est Dieu, eh bien, n'hésitons pas intérieurement à lui parler, à lui confier nos préoccupations, nos projets, nos soucis, nos pensées, nos peines, nos difficultés, nos inquiétudes, nos joies aussi. Profitons-en. C'est lui qui est la solution de toutes les affaires de cette terre et de toutes les difficultés. Alors nous sommes en sa présence, c'est merveilleux. Il est la lumière de notre intelligence pour nous guider dans la vie, nous donnant la lumière sur toutes les décisions importantes que nous devons prendre. Il est la force de notre volonté pour nous permettre d'accomplir les sacrifices de nos devoirs quotidiens. Par sa providence, il fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Alors allons à lui. Mais bien sûr, c'est surtout dans la communion que Jésus se fait la lumière de nos intelligences et la force de notre volonté. « Je suis la nourriture des forts, dit notre Seigneur à saint Augustin, mais tu ne me changeras pas en toi comme les aliments de ton corps, c'est toi qui seras changé en moi. » L'Eucharistie, c'est le sacrement qui nous unit directement et immédiatement à Jésus-Christ. C'est le sacrement qui nous donne le corps et le sang de Jésus qui ont été sacrifiés pour nous sur la croix. Et pour qu'à notre tour, unis à lui et avec lui, nous offrions toute notre vie à Dieu le Père. L'Eucharistie, c'est le sacrement qui nous fait comprendre que la vie chrétienne ne se résume pas à une certaine morale et à certaines pratiques extérieures, mais que la vie chrétienne, c'est une vie d'identification au Christ Jésus. Notre Seigneur a voulu grouper tous les baptisés en un seul corps mystique, dont il est la tête et dont nous sommes les membres, pour que nous lui soyons une humanité de surcroît, comme disait sœur Élisabeth de la Trinité. Nous ne devons pas seulement imiter Jésus comme de l'extérieur, nous devons devenir Jésus. Dans nos prières, en demandant par-dessus tout que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite, dans l'accomplissement de nos devoirs quotidiens, dans notre comportement à l'égard du prochain, être Jésus pour qu'on reconnaisse Jésus en nous, et dans l'abandon à la volonté de Dieu. À tout moment, il faudrait se dire, que ferait Jésus à ma place, puisque je suis lui maintenant. C'est pour tout cela que Jésus vient à nous dans la Sainte Communion, et c'est ce qu'il faut lui demander dans l'action de grâce après la communion, que je devienne un autre vous-même. Le chrétien, c'est le Christ continué, prolongé, le Christ qui, par nous, continue sa mission sur terre. Pensons que pour beaucoup de gens aujourd'hui, dans le monde païen où nous vivons, la première rencontre avec notre Seigneur, c'est la rencontre d'un chrétien. Alors pensons à notre responsabilité, à l'exemple que nous devons donner. Si nous donnons un mauvais exemple, c'est une catastrophe. Et allons plus loin encore. Comme le chrétien est membre d'un corps, par les sacrifices de ses devoirs quotidiens, il obtient des grâces pour d'autres membres de l'Église et aussi pour la conversion des pécheurs, comme a rappelé Notre-Dame de Fatima, ceci par la communion des saints. Notre vie n'est pas notre petite vie individuelle. Jésus se sert de notre vie pour continuer sa mission dans le monde. Ne disons pas, oui, mais cela c'est pour les saints. Non, c'est son plan pour tous. Il veut se servir de nous, malgré nos misères. Et savoir que c'est le plan de Jésus, cela doit nous stimuler dans nos efforts pour être de meilleurs chrétiens. Et pour progresser dans cette foi, dans cette voie, il faut toujours avoir en pensée qu'il y a une condition nécessaire à la vie d'union à Jésus. C'est l'esprit de renoncement. C'est notre Seigneur lui-même qui le dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Saint Grégoire le Grand dit ici qu'il s'agit de la mortification spirituelle, qui consiste en deux choses. D'abord, mourir au péché. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, dit saint Paul. C'est le combat spirituel contre les tentations. Mais la vie chrétienne ne consiste pas uniquement à combattre le péché. Ce n'est que l'aspect négatif, si l'on peut dire, la condition de la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie avec quelqu'un. La vie avec Jésus-Christ, nous venons de le dire. Et cela implique un second renoncement. faire mourir à chaque instant tout ce qui n'est pas exactement conforme à la volonté de notre Seigneur. En fait, c'est une question de foi et de confiance. Être persuadé que ce que notre Seigneur veut pour nous, c'est forcément le meilleur pour nous, même si cela nous coûte. Et pour le faire, eh bien, il vient en nous par la Sainte Communion, nous pouvons nous appuyer sur lui, toute la force qu'il nous donne pour faire sa volonté. Alors demandons à Saint Gilles, à qui notre Seigneur a demandé le renoncement extrême, qu'il nous obtienne cette foi et cette confiance qui nous manque encore pour ne faire plus qu'un avec le grand trésor de notre vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.